Olivier, est-ce qu'il fait beau à Québec, finalement?
Ah oui, toujours.
Ah, toujours! Vous savez qu'on aime, on aime rire de Québec avec votre neige qui est là jusqu'au mois de juin. Puis, Mais finalement, on n'a plus vraiment de raison. Avec le maire que vous avez eu et les maires qu'on a eu dans le passé, là, on n'a plus de raison. Puis en plus, votre transport adapté, vous, c'est 15 minutes. Nous, c'est 30 minutes.
Oui, mais nous, par contre, on n'a pas de réseau structurant encore, puis ça a l'air mal barré, mais bon, ça...
Ouais. Olivier Collomb-Desrames, vous êtes directeur du regroupement, en fait, d'Europe 03, du regroupement des organismes de personnes handicapées. Je disais que peut-être, à l'extérieur de la capitale nationale, on vous connaissait peut-être un petit peu moins qu'à Québec, ou dans le milieu, là, Laurence me parle de vous, Linda me parle de vous, La Coffane, j'oublie son nom, mais il est super gentil. Guimond,
oui.
C'est ça, il me parle de vous. Mais vous, qui êtes-vous? Comment parlez-vous de vous, Olivier?
Je vais te tutoyer.
Ben oui.
Voilà. Vous, ça va être la radio, puis tu, c'est toi.
C'est bon.
Écoute, moi, je me décris à travers les personnes qui, tu vois, qui parlent de moi. Moi, la manière que je me décris, en premier lieu, je suis un militant, un capé, c'est-à-dire quelqu'un pour qui l'amélioration des conditions de vie des personnes qui ont des limitations passent par le respect de leurs droits, pas juste par un gros chèque, mais par le respect de leurs droits. Et donc, je me définis de cette manière-là, militant, capé, et puis également négociant en droit de la personne, parce que pour les gens qui ne comprennent pas, malheureusement, les droits de la personne, il faut les négocier. Ils ne sont pas nés le jour où on a fait une charte. Il faut à chaque fois les ramener pour tout plein de choses, que ce soit le droit de prendre l'autobus, le droit que les trottoirs soient pas parsemés de cratères, le droit à l'emploi. Il y a encore eu un reportage cette fin de semaine sur le fait que déclarer son handicap avant une entrevue d'embauche, c'est des coups à ce qu'en fait, t'en passes pas d'entrevue d'embauche.
Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu commencer à te battre, à militer?
Mais je te dirais, c'est un hasard, en fait. Ça a commencé, je me cherchais une job pour un été, je me suis retrouvé animateur de camp pour des personnes avec des limitations intellectuelles, problématiques santé mentale et puis autisme. Tout ça mélangé en France, quand j'ai le début de la vingtaine, et puis je t'avoue que j'ai rien trouvé de plus dégueulasse que ce que j'ai vu là.
Pourquoi?
Et puis ensuite, c'était des gens qui payaient des montants énormes. Une personne qui était là, on l'avait mis dans le même camp que son ex-conjoint qui l'avait volé et tabassé.
Aïe.
On s'est fait virer par des restaurateurs qui voulaient pas voir des déficients intellectuels dans leur commerce parce que c'était la période touristique. Et puis ensuite, j'ai fait mes stages. Je faisais une maîtrise en ingénierie économique. Donc j'ai fait des stages en organisation d'événements à la mairie de Grenoble, qui était une mairie très progressiste pour les personnes handicapées. Et puis je me suis rendu compte que c'était bien au-delà du camp de vacances, que c'était sur tous les enjeux du quotidien que les personnes se bataillaient. Et puis quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert quelque chose qui me manquait en France, c'est le pour et par.
Okay.
C'est-à-dire le fait que, si tu connais un peu le modèle français, au plus tu montes dans les sphères, au plus il y a de l'argent, au moins les personnes concernées sont présentes. Et on te parle de cœur de métier, de choses comme ça. Et en arrivant au Québec, je t'avoue qu'en ayant regardé avant de partir de France, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de job, parce que quand on visite certains sites officiels de certains offices, on avait l'impression que tout n'allait pas trop mal. Puis en arrivant ici, j'ai eu la chance d'être embauché au Rob 03. Et puis, j'y suis depuis le 10 mai 2004.
Quand même, 15 ans?
Oui.
Wow, OK. J'avais demandé ça à Linda au début de l'année lorsque j'avais causé avec elle, Linda Gauthier, directrice générale du Raplic. Et j'ai demandé, le dossier qui te fait le plus grrr et le dossier qui te fait le plus sourire. J'ai envie de te poser la même question.
Je te dirais, c'est compliqué. Il y a un dossier qui semblait vraiment bien entamé, c'était la question du revenu de base.
Okay.
Qui était quand même une belle avancée. Et puis, malheureusement, on voit que, pour les gens qui sont hébergés, au final, ils y gagnent.
Tu donnes d'une main ce qu'on reprend de l'autre.
C'est ça. Mm-hmm. Et puis, c'est des discussions qui sont difficiles à avoir. Parce que c'est l'argent, les 15 piastres de celui qui a 1 million, c'est pas trop préoccupant, mais les 15 piastres de celui qui a 245 par
bien
mois.
Sûr.
C'est autre chose. Donc ça, c'était un dossier, je dirais, il y a eu une avancée majeure. Je pense que c'était une première avancée majeure, mais qu'on a encore du mal à voir comment elle va se concrétiser. Puis le dossier qui stagne, pour moi, il y en a deux qui sont extrêmement importants. C'est tout ce qui a un caractère transversal, c'est les communications. Je sais pas si tu as reçu le RAM.
Ouais.
C'est effroyable.
Ouais, leur étude, c'est déroutant.
Comme dirait l'autre, le monde est à pleurer. Tout le monde est au courant. Et même des organisations qui sont soumises depuis 2011, on en est toujours... C'est effroyable.
Cette fin de semaine, j'ai commencé à écrire un article pour Urbania justement là-dessus, et je citais justement les chiffres du gouvernement où on parle de 33% seulement des sites gouvernementaux qui sont corrects, notes de passage, alors qu'il y a un standard depuis 2011.
Oui, puis je pense que le RAM a été indulgent dans le sens de dire, voilà, c'est 33 qu'ont le minimum. On ne parle même pas de bons sites.
Non.
Donc ça, je trouve c'est effroyable. Et puis l'autre, c'est le transport. Ça vient encore de sortir des sociétés de transport adaptées qui décident que il n'y a pas d'hôpital sur notre territoire. Puis comme on n'a pas l'obligation de déplacer en dehors du territoire, on ne fait rien. Alors qu'on sait qu'on est toujours en attente d'un décret, d'un budget autour de ça. L'accessibilité des réseaux de transport réguliers, je pense que Linda et Laurence ont dû t'en parler en long, en large et au travers. À la fin des années 70, début des années 80, les personnes handicapées manifestaient pour l'accessibilité du métro de Montréal. Et comme m'avait dit une personne qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement communautaire, Richard Lavigne, je pense que tu connais, j'en ai marre d'être l'homme de la prochaine fois. Depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire, tu le dis, on dit « Ah oui, mais la prochaine fois ». Ça a été dit au début des années 80, et ce que je comprends, c'est que le métro de Montréal, peut-être un jour, d'ici 20 ans, offrira un réseau de transport souterrain qui aura toujours des problèmes avec des ascenseurs qui cassent. Enfin, on sera loin de la coupe aux lèvres, alors que ça dure depuis la fin des années 70. Ça, pour moi, c'est les deux dossiers qui rejoignent le plus de gens et qui permettent l'exercice de tous les autres droits.
Bien
pas
sûr,
de transport, on ne parle pas d'hôpital, d'emploi, d'amour, la vie intime, qui est aussi une des dernières barrières qu'on n'ose pas aborder. Sans communication, sans accès aux communications et sans accès aux déplacements, j'avoue que c'est préoccupant, surtout que quand on regarde, on sait qu'on s'en va pas vers les années avec du développement à 5 ou 6% par année.
Olivier, la politique pourrait t'intéresser?
Moi, je ne fais que ça.
Mais politique active, disons.
Moi, je suis actif, mais je ne suis pas partisan.
Okay.
Et puis, malgré le fait que je suis là depuis 2004, j'ai toujours pas prêté serment à la reine. Donc, ça fait que n'ayant pas la citoyenneté, c'est encore compliqué. Mais oui, c'est quelque chose d'intéressant quand je serai rendu plus tard. Par contre, influencer les partis politiques, moi, je le fais de toutes les manières qu'on peut. Il faut que les partis politiques incluent dans leur discours la question du respect des droits des personnes qui ont des limitations. Puis je fais un parallèle avec l'environnement, qui est quand même un sujet relativement préoccupant depuis très longtemps aussi. Et honnêtement, c'est pas parce que tous les partis en parlent que les choses bougent. Alors les personnes handicapées, elles, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui en parle. Et puis le terme vulnérable, qui peut énerver par exemple Linda, au rapplique, c'est à peu près la seule chose qui ressort. On va vous protéger, le minimum. Mais exercez vos droits, favorisez votre réussite sociale, pas votre participation. L'intérêt, c'est de gagner. Ça, à notre connaissance, malheureusement, la plupart des partis...
Je t'arrête là-dessus, mais on t'entend au CAPÉ mercredi avec Michel Bédard, Olivier Colondéram d'Europe 03. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Un gros merci à Christiane également. On se dit début mai, début juin la semaine prochaine.